Radio Kapi.
Patience Ngalula Mbombo à la présentation de votre journal.
Au sommaire de ce journal, le drame au concert de l'artiste gospel Mike Kalamba hier au Stade des Martyrs. Le ministre de l'Intérieur convoque ce dimanche une réunion de crise. La faille de l'organisation est à la base de cette tragédie, selon les ministres de la Santé. Trois journées de deuil décrétées par la société civile locale dès ce dimanche à la suite des massacres d'Oïcha par les EDF à Beni. C'est pour interpeller les autorités sur l'insécurité qui ronge les territoires de Beni ces derniers temps. L'invité de ce midi, c'est le maire de la ville de Kindu. Augustin Moulamba Atibou parle de sa décision interdisant le lavage des engins sur la chaussée dans la ville de Kindu. Bonjour. La faille de l'organisation, telle est la première cause, selon les ministres de la Santé, du drame d'hier samedi au Stade des Martyrs ayant causé 9 morts et plusieurs blessés au concert de l'artiste gospel Mike Kalambay à Kinshasa. Docteur Roger Kamba, qui intervenait hier sur la chaîne nationale, a regretté que le ministère de la Santé n'ait pas été associé à cette organisation en amont. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Toutes les grandes manifestations doivent être correctement organisées. C'est pour ça que je dis c'est la responsabilité des organisateurs de contacter les autorités pour dire nous voulons faire ceci, nous avons besoin de votre accompagnement en termes d'organisation. La ministre de la Culture et Arts vient de dire la sécurité est la première chose, la sécurité sanitaire, c'est-à-dire l'organisation est très importante. Or manifestement ce n'est pas le cas. Alors le constat fait ici il est assez amer parce que ici on a trouvé 7 corps. Il y en a encore 2 autres ailleurs, ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont attendus maintenant, comme on parle, parce que je viens de donner l'ordre, qu'on emmène au moins un qui a besoin de soins urgents en Galima. Mais ça, ça devait être fait en amont. On devait anticiper ça en amont. Alors donc, au total, 9 morts, et surtout des femmes. Et même des enfants, parce qu'il y a un enfant d'à peu près 10-11 ans qui est là-bas. Et il y a une femme enceinte qui est là-bas. Est-ce qu'elle était partie aussi ou... En tout cas, il y a eu une faille de l'organisation qu'il faut absolument corriger, c'est-à-dire anticiper.
Notez que le vice-premier ministre de l'Intérieur organise ce dimanche une réunion de crise concernant ces drames. Pour sa part, le ministre de la Justice a instruit l'inspecteur général de la police judiciaire et l'auditeur général des forces armées afin d'engager des enquêtes et interpeller notamment les organisateurs. Dans le territoire de Beni, la société civile de la commune rurale d'Oïcha vient de décréter 3 jours de deuil à dater de ce dimanche. Décision prise ce samedi à Oïcha à l'issue d'une assemblée extraordinaire organisée pour cette fin. Cette décision fait suite aux récentes attaques des EDF perpétrées au courant de cette semaine et qui ont coûté la vie à plus de 90 civils du groupement des Babila-Bakaïkou. Pour cette structure citoyenne, c'est une façon pour la population d'interpeller les autorités et leurs partenaires à prendre à bras les corps les menaces sécuritaires qui pèsent sur les territoires de Beni. Isaac Kavalami, président de la société civile dans la commune rurale d'Oïcha, est au téléphone de Marc Marofimbo.
On a analysé la situation qui est tellement précaire. Retenez que la morgue de Oïcha a réussi depuis 2 jours ici, 30 corps de non paisibles populations égorgés, tués, massacrés par les présumés ADF. Et au-delà de ça, il y a plusieurs autres personnes qui ont été tuées. Et le bilan qui remonte d'une semaine est de plus de 90 personnes qui ont perdu la vie. Et là, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la souffrance de la population de Beni? S'il y a quelqu'un qui connaît qu'il y a des gens qui sont en train de mourir ici, faudra-t-il dire que nous sommes tellement naïfs pour que l'ADF nous maltraite pendant 10 ans? Faudra dire que nous n'avons plus de force. Nous sommes tellement faibles pour que les gens continuent à mourir jusqu'à ce niveau. Et c'est comme ça que nous avons dit, nous allons décider à respecter les 3 journées de ville morte pour rehausser notre voix et pour que les gens nous écoutent, que nous sommes en train de souffrir, qu'il y a des personnes qui sont en train d'être égorgées, tuées innocemment. C'est pour cette raison que nous demandons à toute la population de la commune de respecter ces 3 journées ville morte pour ainsi rehausser notre voix plus haut.
Restons au nord Kivu, toujours dans la ville de Beni, une cinquantaine de jeunes de la commune de Moulekera ont clôturé ce dimanche une série de sensibilisations à la lutte contre la désinformation, les rumeurs et les discours de haine. Initiée par les jeunes peintres dessinateurs volontaires pour la paix, cette activité rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée par les bureaux de l'information publique et communication stratégique de la MONUSCO Beni. Pour l'un des sensibilisateurs du jour, les jeunes très impliqués dans les phénomènes doivent prendre conscience du danger de la désinformation et des discours de haine. Rostan Kassai, dessinateur et peintre, explique l'importance de cette activité au micro de Marc Marofimbo.
Nous les artistes, nous avons comme but de parler à travers nos tableaux, nos images. Alors, ce que nous faisons, c'est juste essayer de montrer aux gens les dangers que la population court si elles n'ont pas la bonne information. Nos tableaux essaient de traiter les thèmes différents. Ici, j'ai dit, je dessine un tableau, je vais passer un message quelconque. Et que ce message soit vraiment clair et non pas caché au public. Donc, je peux mettre dans mon tableau des éléments qui peuvent juste démontrer la vraie réalité de le fait et ne pas cacher au public ce qui se passe réellement. Vous savez, les gens n'ont pas la même idée sur les faits qui se passent ici. Donc, il y a des gens qui sont là pour juste effrayer les autres avec des infos qui sont vraiment fausses et des montages sur Adobe Photoshop. Et puis, ça, c'est fréquent. Et puis, vu qu'ici, chez nous, le net est vraiment plus facile, il va publier ça direct sur le net et puis ça va prendre de l'ampleur et puis ça va mettre les gens à la peur et puis effrayer les autres. Donc, juste avant de dire qu'une information est vraie, il faut d'abord avoir la vraie source, voir celui qui a publié, si c'est vraiment vérifié avant que j'ai republié aussi dans mon compte.
En Ituri, nous venons de l'apprendre, 23 anciens otages des ZDF ont été libérés le vendredi dernier près de la rivière Malibongo. C'était au cours d'une offensive conjointe entre les armées de la RDC et de l'Ouganda dans le cadre des opérations Usuja dans le sud du territoire d'Irumu. Selon les porte-parole de ces opérations, l'objectif est de réduire sensiblement la force de naissance de ces rebelles, auteurs de plusieurs exactions contre la population. Parmi les libérés, il y a 13 mineurs, dont 3 nourrissons, et la plupart manifestent des signes de la malnutrition. Martial Kizabiamungu.
C'est depuis le 17 juillet dernier que les forces conjointes FARDC-UPDF pilonnent les positions du ZADF dans la forêt des Monts Oyo, dans la chefferie de Walesevokutu, dans les territoires d'Irumu. Ces opérations se sont poursuivies le vendredi dernier vers la rivière Malibongo. Selon les porte-parole des opérations Usuja, les deux forces ont réussi à libérer des mains des ZADF 23 personnes, dont 16 femmes, parmi lesquelles certaines sont enceintes. Le colonel Maka Azukai indique que 13 enfants et d'autres otages sont arrivés à Luna, en Ituri, où ils sont pris en charge par les forces conjointes. Certains rescapés blessés reçoivent des soins médicaux avant qu'ils ne soient transférés dans une structure médicale appropriée, ajoute la même source. Des activistes de droits humains dans la région saluent l'action de ces armées et les encouragent de poursuivre ces opérations jusqu'à libérer d'autres civils qui sont toujours aux mains de ces rebelles depuis plusieurs mois dans le sud d'Irumu. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre information, le représentant résident du FMI en RDC arrive à la fin de son mandat et quitte Kinshasa cette semaine. Mais avant de partir, il s'est confié à Radio Okapi dans une interview exclusive pour parler du programme économique de la RDC soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI, programme qui a marqué son passage de 3 ans en RDC. On écoute Gabriel Léost au micro de Daniel Tambinzoni.
Le premier progrès, c'est une certaine stabilisation macroéconomique et financière. C'est-à-dire qu'on a une gestion, j'allais dire, quotidienne des dépenses budgétaires, de la politique à la fois budgétaire et monétaire, qui a essayé d'être prudente pour maintenir une certaine stabilité macroéconomique. Ce qui n'était pas gagné, il ne faut pas oublier le contexte de ces dernières années. Mmh. On part 2021, on est encore dans le contre-coup de COVID. Ensuite, on a eu divers événements. On a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a eu des impacts majeurs sur les prix de certains biens importés par la RDC. On a eu, bien sûr, la situation, malheureusement, qui perdure avec le conflit armé à l'Est. On a eu la volatilité des prix des matières premières. Donc, on a eu beaucoup d'éléments extrêmement compliqués. Et face à ça, on a eu un effort pour avoir notamment une gestion budgétaire coordonnée avec la gestion monétaire et pour éviter à tout prix ce qu'on avait pu voir dans le passé, ce qu'on appelle le financement monétaire des déficits, autrement dit faire marcher la planche à billets. Cela ne se fait plus maintenant depuis 4 ans.
Et puis, les minerais de la RDC sont riches en tantale et en niobium pouvant être utilisés à l'échelle industrielle. Il est possible de ne plus continuer à exporter les matières premières brutes, mais plutôt les traiter en vue de produire des composés purs qui peuvent être exportés. Voilà quelques résultats présentés ce samedi 27 juillet à l'ISP Bukavu sur les projets de recherche et développement, les coltans du Kivu, capacité de traitement physico-chimique et études d'application. Un projet de l'ISP Bukavu mené en partenariat avec l'Université catholique de Bukavu, les universités de Namur et de Liège en Belgique. À l'issue de ces résultats, les initiateurs de ces projets recommandent à l'État congolais et aux parties prenantes impliquées dans l'industrie minière du coltan de se mettre ensemble pour proposer l'industrialisation de ces minerais. Professeur Fabrice Mouvundia du département de chimie à l'ISP Bukavu nous en dit plus au micro de Rachel qui est Sembangu.
Le coltan du Kivu, c'est un minerai sur lequel l'économie de la région s'est appuyée depuis les années 2000. Nous avons trouvé que c'était une matière précieuse sur laquelle l'économie nationale s'est reposée, mais sur laquelle très peu de recherches ont été réalisées. Et donc, l'industrie du coltan, elle ne s'appuie pas sur des informations scientifiques, ce qui réduit les avantages qu'on peut tirer dedans. Nous avons pensé qu'il était intéressant d'étudier ces minéraux beaucoup plus scientifiquement et de proposer des voies et moyens, des procédés chimiques qui permettraient d'extraire le tantale, le niobium, donc de le purifier ici sur place afin de rallonger la chaîne des valeurs et pouvoir le rendre beaucoup plus utile à la population, c'est-à-dire en créant des emplois, en renflouant les caisses de l'État par les paiements des taxes et des impôts, mais également en renforçant l'éducation, en formant l'élite congolaise en la matière. Et tout ça réuni, ça contribue à la paix et à la sécurité chez nous.
De la recherche d'emploi à l'évolution professionnelle, tel est le thème qui était au centre du forum sur l'employabilité organisé ce samedi à Kinshasa au centre culturel Boboto. Organisé par les collectifs Jeunes Ambassadeurs d'Afrique, l'objectif était, selon les organisateurs, de faire comprendre aux jeunes l'importance de l'auto-formation pour concourir au marché de l'emploi. Les jeunes chercheurs d'emploi ont posé toutes les questions sur la recherche de l'emploi en RDC au cours des différents panels. Suivez ce reportage d'Étienne Lissumbu.
Jeunes chercheurs d'emploi et étudiants réunis pour un seul objectif, celui de savoir comment trouver de l'emploi. Bénicie El-Kamaï, coordonnatrice du projet Forum sur l'employabilité, a parlé des raisons de la tenue de ce forum avec les jeunes.
Beaucoup n'arrivent même pas à oser et à aller chercher. Oublions que ce n'est pas seulement à cause des recruteurs qui ne recrutent pas, mais aussi parce que les gens eux-mêmes, ça veut dire toutes ces personnes qui veulent se lancer, n'ont pas ce qu'il faut en fait pour avoir ces emplois.
Christian Kilimali, un des panélistes et coordonnateur du service national de volontariat, a expliqué la différence qui existe entre le volontariat et le bénévolat.
Le bénévolat est essentiellement non rémunéré. Par contre, dans le volontariat qui s'organise, qui est assez structuré, il y a toujours un petit retour.
Pour leur part, quelques jeunes étudiants et chercheurs d'emploi ont dit ce qui a retenu leur attention dans ces forums.
En ayant fait le volontariat, ça peut nous permettre d'étendre notre réseau.
Par la même occasion, ça nous a aussi permis, mais pendant que je parle, il y a des personnes qui sont en train de faire corriger leur CV et acquérir une expérience.
Signalons qu'une séance de correction des curriculum vitae a été faite par des experts présents à ces forums.
Politique, crise à l'UDPS, les partis présidentiels, après consultation des députés et sénateurs, élèvent encore une fois les constats d'une crise qui paralyse les bons fonctionnements du parti. Les élus notent la nécessité d'en sortir sans délai. C'est l'une des résolutions comprises dans la déclaration ce samedi de la Commission pacifique des députés nationaux et sénateurs mise en place à l'initiative du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbay. La dite commission a rendu publique sa déclaration après une semaine de travail sur la mission des bons offices auprès des partis en conflit au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. On écoute un extrait de cette déclaration lue par le député national Jules Lodi, rapporteur de la Commission pacifique, dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Les élus notent la nécessité d'en sortir sans délai. Les parlementaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, prennent acte de la volonté de toutes les parties de voir être convoquée la convention démocratique du parti en toute urgence, afin de résoudre la dite crise. Pour ce faire, les honorables députés et sénateurs recommandent 1. Le maintien de la trêve observée jusqu'ici par les partis en conflit, en s'abstenant de poser tout acte de nature à troubler l'ordre public et le fonctionnement du parti. 2. Il rassure toutes les parties en conflit de la convocation imminente de la convention démocratique du parti. Enfin, les députés et sénateurs remercient l'autorité de référence pour la confiance renouvelée pour la poursuite de la mission.
Actualité internationale.
En Israël, 12 personnes tuées dans les Golan par un tir de roquette. Un terrain de football situé sur les plateaux du Golan annexé a été visé samedi par un tir de roquette. L'attaque a fait au moins 12 morts et de nombreux blessés, dont 6 dans un état jugé critique. L'armée israélienne accuse les Hezbollah d'être responsables de cette attaque partie du Liban. Des accusations rejetées par le mouvement libanais, mais Tahal a promis dans un communiqué de répondre aux Hezbollah après évaluation. Cette attaque, la plus meurtrière contre une cible israélienne depuis le début de la guerre à Gaza, fait craindre une escalade plus large dans la région.
L'invité.
Nous passons à l'invité à présent. L'invité, c'est le maire de la ville de Kindu. Augustin Moulamba Atibou venait de prendre une décision interdisant le lavage des engins sur la chaussée. Dans une interview accordée à Florence Kizalunga, il nous parle de cette mesure et d'autres questions qui font débat dans la ville de Kindu. Augustin Moulamba Atibou s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi l'objectif ou bien le bien fondé de cette décision que vous venez de prendre aujourd'hui?
Je viens de prendre la décision d'interdire le lavage des motos et véhicules sur la chaussée, compte tenu du fait que à plusieurs endroits où ces activités s'exercent, il y a eu détérioration du macadam, il y a eu destruction de la chaussée. Et pour préserver ce qui reste encore à préserver, c'est ainsi que j'ai pris la décision d'interdire le lavage de ces engins sur la voie publique, sur la chaussée.
En interdisant les gens de laver les motos et leurs véhicules sur la voie publique, où est-ce que vous les amenez?
Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons tous intérêt à préserver le bien commun. Ce n'est pas parce que vous gagnez 1000 francs qu'il faut détruire ce qui a coûté des millions à l'État congolais. La deuxième chose, c'est que chacun doit chercher un site où il peut aménager et puis commencer à exercer ses activités. Et nous, comme représentants de l'État au niveau de la ville, nous l'avions fait, nous sommes allés vers ceux-là qui exercent ses activités et nous avons convenu qu'ils cherchent d'autres endroits où ils peuvent continuer avec ses activités.
Je pense que vous-même, vous venez de le dire que parmi ces gens, il y a ceux-là qui se prennent en charge et ils diminuent un peu les taux de chômage dans notre ville. Maintenant que vous prenez votre décision, qui est d'un côté saluée, mais vous ne trouvez pas l'issue où ces gens-là peuvent aller exercer aisément leur travail. Ce n'est pas une façon de les frustrer?
Il n'y a pas à être frustré outre mesure parce que la décision telle qu'elle a été prise n'était pas dans le sens d'interdire l'activité. Mais c'est seulement au niveau de la chaussée et des alentours de la chaussée où ces activités ne peuvent pas s'exercer. En dehors de ces endroits-là, ils peuvent exercer ces activités sans encombre, sans aucune interdiction.
Aussi, monsieur le maire, il y a les taximens qui demandent jusqu'à quand nous aurons les parkings publics dans la ville de Kindu.
Les parkings existent, mais ce que les motocyclistes demandent, c'est qu'on leur construise des hangars sur lesquels ils peuvent parquer. Partout ailleurs, ça n'existe pas. Les parkings, c'est là où vous mettez votre engin dans les soucis, soit d'embarquer, soit de débarquer un client. C'est ça les parkings. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Il n'y a pas autre chose à faire. On a quand même aménagé des endroits, notamment dans des lieux de grande affluence, où ils peuvent parquer leur moto. Mais ce qu'ils demandent, c'est que l'on construise des hangars, alors que les hangars, ce n'est pas ça les parkings.
À quoi sert alors l'argent que la mairie est en train de percevoir auprès de ces motards, là où ils sont en train de parquer et qui n'est pas le lieu indiqué?
Cet argent, vous savez, c'est les moyens que l'État nous donne pour nous permettre de répondre à certains besoins de la population, exprimés par la population. Et ces moyens, ce n'est pas que c'est de l'argent liquide que l'État nous verse, mais ce sont des taxes que nous devons faire payer à ces assujettis, de sorte que ça nous permet d'avoir les moyens nécessaires pour répondre à leurs besoins. Donc ne pensez pas que c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Au contraire, vous savez, nous comme représentants de l'État, nous avons comme patron la population. Et c'est la population qui nous donne les moyens pour répondre à ses besoins.
Alors pour mettre cette population à l'aise et vu qu'elle contribue aussi pour l'avancement de sa province, il n'y a-t-il pas moyen de trouver des solutions pour éviter qu'il y ait un tiraillement entre mairie et les motards?
Il n'y a pas de tiraillement. C'est ainsi que, après avoir pris la mesure, nous allons vers la population dans le souci de la sensibiliser à pouvoir s'approprier cette mesure-là. Et j'espère que, comme je l'ai constaté, tout le monde est d'accord avec moi.
Monsieur le maire, il s'observe partout dans la ville, il y a des saletés, il n'y a pas de poubelles publiques. Que pense la mairie pour rendre la ville salubre?
Nous sommes en train de fournir de grands efforts, je pense que vous les constatez vous-même, et la ville n'est pas dans l'état où nous l'avions trouvé. Il y a des améliorations dans ce sens-là, et voilà pourquoi nous avons instauré notre politique de gestion des déchets. Chaque ménage doit avoir un endroit où il garde d'abord ces ordures ménagères avant de nous permettre de venir les ramasser. Et il y aura aussi des décharges, des transits par où la population pourra venir déposer ses déchets et il nous appartiendra maintenant de venir les ramasser là-bas afin de les acheminer à leur destination qui est la décharge définitive.
Monsieur le maire Augustin Thibault Moulamba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session de vos nouvelles des midis sur Radio Capi. Merci à Debs Vita qui a assuré sa mise en onde. Merci également à Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima qui l'ont respectivement supervisé et coordonné. Patience Ngalulambombo, c'est moi à la présentation. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité et bonne journée dominicale à tous.